France Culture.
À voix nue, Éric Lemasson, avec Israël Nizan.
Gynécologue obstétricien, parce que préoccupé par la cause des femmes depuis 50 ans.
Épisode 2. À la maternité, ils sont plus nombreux en sortant qu'en arrivant. Israël Nizan, bonjour.
Bonjour.
Hier, nous avons évoqué vos débuts de jeune interne à l'hôpital par un souvenir fort qui vous a marqué toute votre vie, que vous avez raconté, sur lequel j'aimerais peut-être qu'on revienne. Nous sommes au début des années 70, vers 1975. Vous êtes étudiant en médecine dans un service de gynécologie et vous entendez de très jeunes femmes crier de douleur et bientôt mourir.
C'est le début de mon internat, en 1974, il n'y a pas encore de loi sur l'IVG, et je ne savais pas que se tramait dans les allées du gouvernement une loi qui la permettrait. Et je suis réveillé dans toutes les gardes par la concierge de la maternité pour un mot qui a disparu, qui s'appelle un tentamen, manière latine de parler d'une tentative. Le tableau clinique du tentamen que tous les internes recevaient à l'époque est une fille marbrée de violet dans le visage, tremblotant de froid avec une température à 42 et hurlant de douleur.
Tentamen de s'auto-avorter ?
De s'auto-avorter.
Sous-entendu, oui.
On appelait ça un tentamen. Venez docteur, il y a encore un tentamen. On en avait parfois trois par nuit. Et le tentamen, en fait, c'était une menace de mort. Et à trois reprises, en un mois, j'ai vu des femmes, deux sont mortes, et l'une est restée handicapée à vie, parce que l'infection aux germes injectés dans l'utérus en même temps que l'eau savonneuse pour s'avorter avait provoqué une septicémie gravissime dont on n'arrivait pas à les sortir. Et donc j'ai vu deux jeunes femmes mourir à 16 ans, mortes en 24 heures, dans des douleurs effroyables. Et de manière contemporaine, je voyais celles qui avaient des relations et celles qui avaient un papa bien placé passaient tout naturellement au bloc opératoire. C'était même mon patron qui les faisait et il ne pouvait pas marquer avortement sur le tableau opératoire, donc il marquait fausse couche. Et moi, je voyais bien que c'était un pieux mensonge, mais je voyais aussi que quand on est pauvre dans notre pays, on a droit au tentamen et au risque de mort, et que quand on est riche ou en réseau favorable, on peut avoir droit à des soins normaux.
Ça ne dérangeait personne.
Le monde gynécologique était assez conservateur à l'époque, et je vous rappelle que quand la loi Veil est passée, il y a une grande partie des gynécologues de notre pays qui ont dit « pas de ça chez moi ». Et on a dû créer des centres d'avortement à côté des services de gynécologie qu'on appelait centres autonomes. Et d'ailleurs, quand j'ai concouru pour l'agrégation de gynécologie, il y a quelques membres du jury qui m'ont dit « dites-moi, il paraît que vous faites des avortements ». Donc même dans les années 90, c'était mal porté dans la spécialité d'être en accord et en participation avec des interruptions de grossesse.
C'est-à-dire que la loi du 17 janvier 1975, la fameuse loi Veil, a tout changé sur la dépénalisation, mais pas tout changé dans les mœurs et dans les têtes.
Je n'ai plus vu une femme mourir depuis le 23 janvier 1975 de cela, alors qu'il en mourait 300 par an avant. Et donc, oui, ça a tout changé sur le plan du sort des femmes. Par contre, Simone Veil a dû affronter le corps médical, dont beaucoup disaient que c'était un crime et qu'ils ne voulaient pas que ces crimes fussent commis dans le service qu'ils dirigeaient, comme si les services étaient des PME qui leur appartenaient. Simone Veil a contourné les médecins et a créé dans tous les endroits où le médecin titulaire de la chaire de gynécologie était opposé, des centres autonomes. Il y en a encore aujourd'hui.
Alors hier, dans le premier épisode, vous avez évoqué vos origines familiales. Votre père, médecin lui aussi, qui rêve de partir s'installer en Israël, où vous allez naître. Et puis son retour, très déçu. Un contexte familial difficile, une partie de la famille déportée. Quelle influence ça a, tout ça, ce contexte, sur une pratique de la médecine qu'on sent chez vous dès le départ un peu militante, avec oser prendre des positions délicates, difficiles, et teintée quand même d'une forme d'humanisme? Médecin accoucheur d'humanité, c'est le titre que j'ai envie de donner à ces voix nues qui vous concernent, Israël Nizan.
Il me semble bien que la vie peut être morne ou teintée. Est morne une vie sans combat. Est teintée une vie où on a cru, était convaincu et s'est battu pour une cause ou pour une autre. J'ai choisi la vie teintée. C'est un peu dans les gènes, hein. Mon père était militant, j'ai 2-3 frères militants. La militance, c'est un peu un signe de famille.
Étant jeune, vous aviez, quel était votre idéal de jeunesse? Est-ce que vous aviez des convictions politiques? Vous aviez du militantisme en dehors de votre médecine?
J'étais gauche de gauche, comme beaucoup d'étudiants, et je considérais que la somme des intérêts personnels ne constituait pas l'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'il fallait une régulation. Parce que nous sommes tous inégaux, il y a des gens qui, sans avoir à retrousser les manches, peuvent gagner énormément d'argent très rapidement parce qu'ils sont plus habiles, plus adroits que les autres. Et je trouvais que ça, c'était la loi de la jungle et qu'il fallait tempérer la loi de la jungle par une régulation qui ne peut être que politique. Le politique dominant l'économique. Depuis, j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que quand le politique devient trop puissant, on arrive à l'Union soviétique où tout s'arrête et où l'intérêt particulier, qui est un moteur très puissant, n'est plus utilisé.
Au plan médical, Israël Nizan, l'une des promesses du serment d'Hippocrate, peut-être la plus belle, c'est d'abord ne pas nuire, primum non nocere en latin. Veillez à ce que le remède en fait ne soit pas pire que le mal. Est-ce que c'est une notion que vous pouvez et que vous avez essayé de mettre en œuvre dans votre pratique et dans votre réflexion éthique?
Absolument. Il y avait des domaines de la médecine où j'ai été parmi les premiers, notamment ce qu'on appelle la médecine fœtale. En médecine fœtale, on peut détecter une maladie du fœtus et parfois y remédier. Je vais vous donner un exemple simple. C'est quand la mère envoie des anticorps anti-rhésus parce qu'elle en est porteuse à son petit, au travers du placenta. Ces anticorps vont tuer les globules rouges du bébé, qui se retrouvent de plus en plus anémiques, et ça, nous, on peut le voir à l'échographie, et on peut transfuser pour parvenir jusqu'à la maturité et à l'extraction. Voilà une thérapeutique fœtale assez sophistiquée, dont j'ai été un des premiers en France, on était 3-4 à savoir faire ça. Et au début, on a tué pas mal de fœtus. Parce qu'on ne savait pas jusqu'où il fallait monter pour corriger l'anémie, pour éviter d'y aller trop souvent. On se disait, je vais monter un peu plus, et hop, l'enfant mourait sous nos doigts. Et donc ça a été pour moi l'obligation de faire de la recherche, et une recherche extrêmement précise pour que on ne soit pas pire que le mal, parce que quand un fœtus mourait au cours d'une transfusion in utero, on pouvait se demander si on ne l'avait pas transfusé, s'il ne serait pas arrivé jusqu'au moment où on aurait pu l'extraire. Parfois c'était le cas. Et donc oui, je suis préoccupé que jamais et c'est forcément le cas quand même. Il n'y a que les gens qui ne font pas de médecine qui ne savent pas ça. Mais il y a des gens qui peuvent mourir dans nos mains qui ne seraient pas morts si on avait fait autre chose. C'est difficile à vivre. Quand on rentre le soir, on est mal.
Alors, vous devenez docteur en médecine en 1978, c'est ça? Et c'est à l'hôpital que vous allez faire carrière. Pourquoi l'hôpital public? C'est vrai qu'à l'époque, c'est là que se situe l'excellence. À l'époque, la question se pose moins qu'aujourd'hui, peut-être.
Ah, la question, pour moi, c'était de pouvoir rester à l'hôpital. C'est que l'hôpital accepte de me donner un poste, c'est-à-dire qu'on me considère, que mes maîtres me considèrent comme étant quelqu'un de valable pour l'équipe. Rester à l'hôpital public, à l'époque, c'était le must. Ne partaient de l'hôpital public que ceux qui n'y avaient pas trouvé de place.
Les temps ont bien changé, docteur.
Les temps ont vraiment changé. Mais à l'hôpital, on pouvait faire de la recherche, on pouvait faire de l'enseignement, on pouvait soigner sans se préoccuper des deniers des gens qu'on soignait. On était à mille lieues de penser, de réfléchir, même si les gens avaient de l'argent ou pas. Et donc, cet affranchissement par rapport à l'argent et à la position des gens, pour moi, était indispensable. J'étais même fier, et je le disais, de travailler dans un pays où quelqu'un qui vit sous les ponts peut avoir une greffe cardiaque. J'allais aux États-Unis souvent et je voyais qu'il n'en était rien et que le libéralisme tuait un peu partout sur la planète, mais pas chez nous. Chez nous, même quelqu'un qui n'avait pas un demi-centime pouvait être soigné comme les autres.
Je reconnais bien là votre liberté de parole, puisque je rappelle que nous sommes en train d'enregistrer ces entretiens au cœur de l'hôpital américain à Neuilly, fer de lance du système de santé privé américain, et vous venez dire ce que vous venez de dire.
Et figurez-vous que j'introduis dans l'hôpital américain des filières de soins avec un reste à charge zéro. C'est-à-dire que et l'hôpital et les médecins se calent sur les prix de la sécurité sociale qui, soit dit en passant, sont dérisoires et toujours inférieurs à ce que ça coûte réellement. Mais il y a des filières de soins que l'on constitue maintenant à l'hôpital américain qui sont à reste à charge zéro et j'en suis fier.
Alors, revenons à vos débuts professionnels, Israël Nizan. Je vais résumer à gros traits, mais au début de votre carrière, l'obstétrique, ça consistait un peu à une femme à un gros ventre, on va l'aider à faire sortir le bébé, point. Bien sûr, il y avait la radiographie déjà, mais soudain, à peu près au milieu des années 1970, apparaît un outil nouveau qui va permettre de faire connaissance avec un être qu'on n'avait encore jamais vu, sauf évidemment dans les autopsies, mais cet être, c'est le fœtus, le bébé à naître. Et vous, médecin, jeune médecin, vous faites connaissance avec cet être nouveau. C'est presque un extraterrestre. C'est un nouveau patient que vous allez apprendre à découvrir, peut-être même à soigner.
Souvent, on dit qu'une carrière est liée à un moment émotif très puissant. Je sais repérer ce moment émotif, c'est quand j'ai vu un cœur de fœtus battre sur l'écran. Il y a eu un premier moment où l'échographie ne faisait que des images figées et on fabriquait l'image avec un pantographe sur le ventre de la femme. Ces images étaient très mauvaises, de très mauvaise qualité, et on pouvait voir s'il y avait un crâne ou pas de crâne. Mais on pouvait pratiquement pas faire de diagnostic prénatal. La preuve en est que la loi de 75 évoque l'interruption médicale de grossesse, mais uniquement pour les risques maternels. Le risque fœtal est complètement oublié. On n'imaginait pas qu'on serait un jour capable de voir aussi bien le futur. On l'imaginait pas. Et puis, progressivement, 2 ans plus tard, en 77, sont apparus ce qu'on a appelé les appareils en temps réel, qui faisaient 8 images par seconde et qui nous permettaient de voir un mouvement. Ça a tout changé.
Et à ce moment-là, votre patron au CHU de Strasbourg vous désigne, vous, pour vous occuper de cette chose-là, ce machin, cet outil qui sert à rien, dans lequel on ne voit pas grand-chose. C'est pas une punition, mais c'est pas non plus la panacée.
Oui, les meilleurs, il les réservait à la chirurgie, l'art noble. Alors moi, j'ai appris la chirurgie également, mais il m'a dit, tiens, sous l'escalier, là, on a acheté un échographe pour être à la mode. Tiens, t'as qu'à t'occuper de ça. Et puis, je me suis occupé de l'échographie. Et l'échographie a changé ma vie.
Oui, parce que le paradoxe heureux, c'est que finalement, vous devenez le pionnier d'une discipline nouvelle, en tout cas en France. La médecine fœtale.
La médecine fœtale, c'est-à-dire la possibilité de faire un diagnostic et un traitement sur un fœtus in utero, c'est devenu une discipline au travers de toute la planète. Et il y a même maintenant des gestes chirurgicaux sur le fœtus. Donc on est dans une situation où le fœtus est devenu un patient. C'est plus quelqu'un qui peut souffrir in utero et avoir les effets de sa souffrance à portée à vie. Mais par contre, on est là en train de se dire, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va pas bien? Est-ce qu'il y a des signes de bien-être fœtal? Est-ce qu'on peut améliorer l'état de ce fœtus? Est-ce qu'on peut faire en sorte que son pronostic ultérieur soit meilleur.
Pour vous, il y a des faits d'armes particuliers ces années-là. Vous décrivez, par exemple, c'est, je crois, une première mondiale, des pathologies cardiaques. Et puis après, il y aura d'autres innovations que vous allez mettre en œuvre.
Alors, pour la pathologie cardiaque, j'ai fait partie effectivement des tout premiers pionniers au monde, parce que on savait bien que quand un foetus a l'aspect d'un bibendum Michelin, c'est probablement lié à une insuffisance cardiaque. Et à chaque reprise, le bibendum Michelin, avec les moyens de l'échographie de l'époque, on le voyait, mais on regardait le cœur et on savait pas le regarder. Et j'avais un de mes anciens maîtres en pédiatrie, qui avait 4 ans de plus que moi, Bernard de Getter, que j'appelais chaque fois que j'avais un bibendum Michelin sous les... Et il me disait « Montre-moi le cœur ». Il avait été formé au Canada, il avait une certaine avance sur l'échographie. « Tourne un peu ta sonde, encore un peu ». Et on a fait le premier diagnostic prénatal de tétralogie de Fallot, c'est-à-dire une anomalie où il y a un trou dans le cœur qui fait que le cœur ne fonctionne pas bien et qui donne une insuffisance cardiaque. On a publié les premières images de Fallot dans le monde. De fait, on a eu plein de médecins de partout qui sont venus voir ce qu'on faisait, y compris des collègues parisiens, anglais, américains, qui, voyant notre publication, se sont dit « Tiens, est-ce qu'il y aurait par hasard une cardiologie fœtale ?» Et on a fait le premier symposium international de cardiologie fœtale à Strasbourg.
Alors, le progrès technique, c'est formidable. Si on pousse cette logique du diagnostic prénatal avec l'évolution actuelle des techniques, la question c'est jusqu'où va-t-on ? Jusqu'où s'arrête-t-on dans le diagnostic, la prédiction de maladies à venir, et donc à l'eugénisme finalement, puisque là vous découvrez dans ces années-là une pathologie cardiaque. Si aujourd'hui, avec un simple test, on peut se dire qu'à l'âge de 50 ans on aura du diabète, ça vaut pas le coup de naître. On en est presque là aujourd'hui. La question n'est plus de savoir comment trouver les maladies, mais savoir où on s'arrête.
Je suis de ceux qui estiment qu'il faut mettre une limite au diagnostic prénatal, sans quoi il deviendra un fléau. Et il y a de plus en plus de collègues qui me rejoignent parce que l'échographie a fait de tels progrès, mais surtout la biologie et la génétique nous permettent de dire si quelqu'un sera diabétique à l'âge de 50 ans, et à quel âge il sera chauve, et à quel âge il fera un infarctus, et s'il aura une pathologie auto-immune. Et donc tout cela peut et va se voir sur les gènes, et je vous demande bien quelle maman peut dire ce qu'elle fera et ce qu'elle prendra comme décision quand on lui aura dit tout ça sur son bébé. Je pense qu'il faut qu'il y ait une part de rêve et une part de mystère, que on propose de ne pas poursuivre une grossesse quand il y a une maladie grave, oui, mais qu'on dise aux parents « vous avez toute liberté ». On va vous donner la carte génétique de votre enfant et son pronostic. On n'est pas devant une cartomancienne. Parce que la cartomancienne, elle peut se tromper. Mais nous, en génétique, on se trompe pas. Donc, si vous me demandez est-ce que je veux savoir quelle maladie génétique j'ai, je vous dis non.
C'est-à-dire qu'on a tous des tares.
On a tous 300 tares. Et si on se met à dire à une femme enceinte, voilà les 300 tares de votre enfant, comment est-ce qu'elle peut encore poursuivre sa grossesse?
Alors, on poursuit votre carrière de jeune médecin à l'hôpital en Alsace. Vous avez là, à ce moment-là, des ambitions très fortes, celle de devenir chef de service, d'être nommé professeur. Et là, vous allez peut-être vous heurter au système hospitalo-universitaire. Vous aimeriez aller à Paris. C'est pas facile quand on est un provincial d'aller à Paris. On est victime d'une sorte de tare, parlons-en, du provincial face à la médecine parisienne. Vous allez devoir faire campagne, vous heurter à des oppositions pour réussir à être nommé professeur de médecine.
Devenir professeur de médecine, il y a une part de talent et de travail, et il y a une part de chance. Et la chance, c'est des impératifs politiques, c'est on veut nommer le fils de tel autre, il y a du népotisme qui est prévalent. Ça a vraiment bien diminué, mais dans les années 90... Être nommé à Strasbourg sur un poste de gynécologie obstétrique, c'était pas possible pour moi parce que le patron d'en face avait repéré que j'étais un peu une forte tête et avait décidé que ce ne serait pas moi. Et du coup, a fait venir sur le poste vacant que j'aurais dû occuper un Parisien. Et donc, j'avais une légitimité pour dire aux Parisiens, bah, vous avez fait venir un Parisien sur le poste que j'aurais dû occuper, donc je viens à Paris. C'est pas très facile d'aller expliquer ça à des Parisiens, à des patrons parisiens, parce qu'ils disent, enfin, on est une école de médecine, une des plus réputées, l'école de Paris. Vous pensez pas qu'on peut fabriquer nos élèves et avoir nos propres professeurs? Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher en province? À l'époque, c'est un peu la réaction que j'ai entendue de la part des membres du jury d'agrégation parisien. Mais, dans le fond, le hasard a voulu que ça soit moi. Il y avait 20 candidats parisiens contre moi sur le poste.
Vous avez été nommé donc en 1991, c'est ça, professeur, avec une prise de fonction l'année suivante à Poissy dans les Yvelines. Et sans faire offense à cette région, ce n'était pas un hôpital ou une maternité qui allait très bien. C'était un peu un cadeau empoisonné. Vous n'étiez pas au cœur de Paris intramuros.
Les professeurs ont une attache hospitalière et une attache universitaire. Mon attache universitaire, c'était Paris 5, René Descartes. Et mon attache hospitalière était Poissy, et ça a été une bénédiction pour moi, même si mes collègues me disaient « ne va pas à Poissy, c'est un enterrement de première classe ». Et effectivement, dans ce service universitaire à Poissy, avant mon arrivée, il y avait des choses pas très claires qui s'étaient produites. J'arrive le 2 janvier 92. Je me mets dans mon bureau et le téléphone sonne. Et vous êtes le nouveau patron du service? Ben oui. Monsieur, vous dirigez un service de merde. J'éclate de rire. Et me dit, je lui dis, mais attendez, laissez-moi arriver. Dites-moi, ça va continuer les IVG à 3000 francs en liquide sous la table? Je dis, quoi? Vous voulez me dire qu'il y a ça qui se passe? Oui, je vais vous donner des noms. Et me donne les noms de praticiens qui étaient là. J'étais très gêné d'arriver dans un service où mon prédécesseur avait laissé évoluer des pratiques pas très catholiques, si j'ose dire. Et ça redémarrait assez vite. Quand ils ont vu qu'il y avait un nouveau patron et qu'on avait envie de faire des choses et que...
Vous disiez, un chef doit savoir cheffer.
Il n'y a pas deux manières de cheffer. J'ai toujours, non pas par souci de mandarinat, parce que je n'éprouve pas de jouissance au pouvoir. Par contre, j'estime que si on candidate pour le prendre, alors il faut cheffer. C'est-à-dire accepter une certaine forme d'isolement par rapport aux autres, accepter de ne pas plaire de temps en temps, mais être capable de dire « je tranche ce débat et je choisis telle option ou telle autre option ».
La parenthèse à Poissy va se refermer un peu plus tard, au tournant des années 2000, où vous revenez en Alsace, à Strasbourg, où là, ça va être un peu, on verra plus tard, votre âge d'or, avec une maternité qui tourne à plein régime. J'ai un peu fouillé les archives de l'INA, la télévision, et la presse écrite. On commence à parler de vous médiatiquement, Israël Nizan, en 1998-99. Vous venez de revenir à Strasbourg, lorsque Martine Aubry, alors ministre de la Santé du gouvernement Jospin, vous commande un rapport sur la situation de l'IVG en France. Et votre rapport, publié en mars 1999, va vous projeter dans des turbulences insoupçonnées.
Absolument. Elle me demandait de trouver les solutions pour améliorer la loi et faire en sorte que le parcours des femmes en demande d'IVG dans notre pays ne soit pas aussi difficile. Je dois dire que j'ai pas été un auteur de rapport désappointé, parce que sur 25 propositions qu'il y a dans le rapport, il y en a 19 qui sont rentrées dans la loi de 2002 sur l'IVG.
C'est rarissime. Habituellement, les rapports finissent dans des tiroirs.
Eh bien, c'est le seul rapport, parmi les rapports que j'ai faits, c'est le seul qui a eu un tel impact. C'est-à-dire que Martine Aubry s'est emparée de ce rapport et l'a transféré globalement dans la loi. Même au-delà de mes espérances, certaines propositions, j'espérais même pas qu'elles aient lieu, dont l'allongement du délai de 12 à 14 semaines, et ça a eu lieu.
Alors, mais en revanche, le corollaire de ce rapport saisi par les politiques, c'est que vous allez recevoir des dizaines, des centaines de lettres d'insultes, d'injures, voire des menaces de mort, et à ce moment-là, d'ailleurs, ça fait la une de l'actualité.
Il y a plusieurs sectes catholiques qui impriment des petits cartons avec déjà 5 millions de morts par l'IVG, est-ce qu'il faudra 6 millions pour vous arrêter d'appliquer la loi Veil ? Donc le carton était passablement antisémite et les gens dans les églises achetaient ce carton et me l'envoyaient. J'en ai reçu des milliers chez moi, dans mon hôpital. J'ai aussi reçu des petits cercueils gravés à mon nom, au point que ma famille me demandait est-ce qu'on peut rester à la maison, est-ce qu'il n'y a pas un danger, parce que mon domicile à Strasbourg était facilement identifiable, que j'avais des gens qui venaient prier sous mes fenêtres le dimanche et faire des psaumes sous mes fenêtres. Et donc, que dire, au moment où ce rapport est sorti, très peu de temps après, Martine Aubry m'a dit « Mais revenez à Paris, vous êtes difficile à protéger. Pourquoi vous êtes allé à Strasbourg ?» Mais ça s'est assez rapidement tassé.
Le grand paradoxe, c'est que finalement, sur la question de l'IVG, au contraire, aujourd'hui, et même déjà à cette époque, vous avez une position assez nuancée, justement. C'est-à-dire que vous avez les conservateurs, vous venez de l'expliquer, qui vous attaquent comme un dangereux tueur de bébés à naître. Et puis, on l'a vu plus récemment sur le délai de l'IVG, vous avez les plus progressistes, les plus féministes qui vous attaquent comme étant un dangereux conservateur. Comme si, sur cette question-là aujourd'hui comme sur d'autres, il était très difficile d'avoir une position nuancée. Et d'ailleurs, vous, ce qui, je le relève, c'est que vous avez proposé aux politiques de dire « Attendez, avant d'avoir des positions dogmatiques sur ces questions, venez dans l'hôpital, venez assister à une IVG, vous verrez ce que c'est et vous verrez pourquoi je pense ce que je pense. »
Il y a certains politiques qui m'ont dit « c'est à vous de vider les utérus, c'est pas à nous, c'est votre métier, et si ce métier vous plaît pas, changez-en. » Donc j'ai eu cette phrase-là quand j'ai invité des politiques en salle d'opération pour voir ce qu'entraînaient les décisions qu'ils avaient prises assis sur le velours rouge de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Je leur ai dit « venez voir ». Ils sont jamais venus. Mais l'IVG, pour moi, n'est pas une contraception. L'IVG, c'est un échec. Et dire ça, encore aujourd'hui, c'est punissable par la doxa du planning familial, par la doxa féministe. Dire « je veux réduire les IVG », on est quand même un pays qui a 230 000 IVG pour 650 000 naissances ou 700 000 naissances. Ça veut dire qu'une grossesse sur trois dans notre pays se termine par une IVG. Est-ce que on est dans le taux moyen des pays d'Europe ? La réponse est non, on est plus haut. Est-ce que ça veut dire que les Françaises sont moins intelligentes que les autres et ont moins recours à la contraception ? Non, ça veut dire qu'on n'éduque pas nos enfants, on les forme pas.
Alors Israël Nizan, dans cette décennie 80-90, la grande affaire de votre spécialité médicale, c'est aussi la FIV, la fécondation in vitro, ce qu'on appellera le bébé éprouvette. Donc vous exercez alors à Strasbourg, à l'hôpital, ce qui vous empêche, vous le raconterez peut-être, d'avancer sur ces questions. Votre équipe sera devancée par une autre équipe parisienne qui deviendra célèbre, mais vous serez quand même l'artisan d'autres premières médicales remarquées dans ce domaine. C'est ce que nous découvrirons demain, Israël Nizan, dans l'épisode 3 de ce À Voix Nue qui vous est consacré. Épisode 3 intitulé « Le problème de la bioéthique, c'est lorsque la religion s'en mêle ». À demain, Israël Nizan.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Israël Nizan. Réalisation Yaël Mandelbaum, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Éric Lemasson, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.